au niveau des personnes est très théorique. Je suis encombré par tout ce que je voudrais dire à la fois, alors je vais dire très peu de choses, sinon ça va nous prendre tout le sujet. Comment est la formule de la Constitution de la Révolution française ? Les hommes naissent égaux. Libre et égaux en droit. Alors, si on admet qu'il y a là une notion d'égalité, de dignité de la valeur de la personne humaine en chacun, eh bien c'est très bien. Mais au niveau existentiel, et je vais vous donner un exemple que j'ai vécu moi-même, c'est là que je l'ai mieux compris, au niveau existentiel, aucune personne n'est égale l'une à l'autre. S'il y a une égalité de dignité, c'est une notion d'ordre moral, ça oui. Mais je vais vous raconter comment j'ai expérimenté. C'était au service militaire, j'étais dans l'armée française, pendant la guerre d'ailleurs. Alors vous savez qu'au service militaire, on ne mange pas cachère. Enfin, maintenant, on commence à manger cachère en France. Il y a même des cache-croûtes différentes. Bon, c'est notre problème, je veux dire, même dans l'armée. Donc, vous savez ça, il y a les halak, il y a les pas halak, il y a les... on avait le droit, enfin, il y avait de très rares, je ne sais pas s'il y en avait deux, en tout cas, un, il y avait, c'était moi, de très rares soldats de cette armée française du genre de la guerre qui mangeaient cachère au front. Et alors, on avait le droit de recevoir ce qu'on appelait le prêt franc, c'est-à-dire une équivalence en argent, pour pouvoir se débrouiller. Et alors, voilà que, m'occupant de ces problèmes, j'ai découvert ceci. C'est qu'il y avait des soldats qui avaient droit à une double ration. Pourquoi ? Parce qu'ils mangeaient plus que les autres, tout simplement. Alors, les estomacs ne sont pas égaux en capacité. Alors qu'on donnait une ration à chacun, ben, ceux qui en avaient besoin de plus... Eh bien, il n'y avait pas une ration et demie, il y avait deux rations, une ou deux. Et je ne sais pas si c'est suffisamment suggestif pour montrer que, au niveau des sujets humains, la notion d'égalité est une notion fausse. La formule de la révolution socialiste, de la révolution d'octobre, est beaucoup plus proche de la justice que ce que vise cette formule théorique de la révolution française. À chacun selon ses besoins. Ça, c'est déjà autre chose. Et les besoins de chacun ne sont jamais égaux aux besoins d'un autre. Alors, je pourrais analyser très longuement ce problème. Je vais prendre seulement un exemple, en prenant du vocabulaire hébreu. Vous avez en hébreu deux mots qui se ressemblent beaucoup. C'est le mot « shavé », qui veut dire « égal », « shin »,« vav », et pas la peine que j'écris, vous visualisez, et « shav », avec un aleph à la fin, qui veut dire « vin », « v-i-n ». Alors, regardez ce que l'hébreu nous dévoile là. S'il y a deux choses égales, une des deux est vaine. C'est clair. Et en tout cas, même si au niveau des quantités, on peut établir des équivalences d'égalité, 10 fois 1 égale 1 fois 10, et encore, ce n'est pas vrai en pharmacie, ni d'ailleurs en comptabilité, parce qu'en pharmacie, 10 fois un cachet de Gardénal, ce n'est pas la même chose que 1 fois 10 cachets de Gardénaux. Il est évident que cette notion d'égalité ne va pas jusque-là. Okay. Et puis, il y a le mystère de la multiplication des francs en comptabilité. J'ai jamais rien compris. Mais enfin, là aussi, 10 fois 1, ça ne fait pas 1 fois 10. Bon. Et ceci dit, même si dans l'ordre de la quantité, l'égalité est une notion vraie, dans l'ordre de la qualité, rien n'est égal à rien d'autre. Et un mouchoir, vous croyez que vous allez au Présunique, je ne sais plus comment on dit, au Super Sol, et, non, ça c'est de l'Ashkenazi, mon Super Sale, ça c'est les paradis, et vous allez acheter 10 mouchoirs, et c'est les mêmes. Mais imaginez le mouchoir que la fiancée a reçu d'un sort de clair de lune de son fiancé, celui-là, il est égal à aucun mouchoir. Est-ce que c'est clair ? Dans l'ordre de la qualité, est-ce que vous allez remplacer un enfant de sa mère par un autre enfant ? Rien n'est égal à ce niveau-là. Voilà, alors nous avons là une notion extrêmement difficile. C'est pourquoi, non, on est en plein dans le sujet, c'est pourquoi la seule manière de réintégrer la dignité de l'autre en tant que sujet, c'est cette formule que chacun reconnaît l'autre comme supérieur. Alors il y a égalité. Mais sinon... c'est l'échec permanent de la formule de la Révolution française. Voilà, c'est une. Il me semble que c'est une fausse équation. Ok. Quête.
Oui, ce principe là, que vous avez lancé, ça exige une maturité précisément des deux parties, non pas d'un seul.
C'est ça, il faut réciprocité. L'échec vient lorsqu'il n'y a pas réciprocité. Et vous savez très bien que c'est ce que la pensée chrétienne en général avait tendance à reprocher au judaïsme, précisément à la réciprocité. Et on ne peut se conduire en paix qu'avec celui qui est en paix. Im hasid chasad. Est-ce que c'est clair? Et je crois qu'il y a dans cette erreur de croire que la vertu consiste dans le fait de reconnaître l'autre sans exiger de lui la réciprocité, il y a une conduite de suicide. Est-ce que c'est clair? Non, c'est la notion même du contrat social. On est en contrat que lorsque les deux partenaires sont dans une attitude de réciprocité. C'est bien clair. Voilà, je referme donc.
C'est
réalisable, je veux dire, c'est pas... Ah oui, entre partenaires, oui. Entre partenaires, oui. Et c'est pourquoi, je n'ai pas préparé le vocabulaire de cette question, mais je voulais mettre en évidence que ce qui a été souvent reproché au judaïsme, c'est précisément de ne reconnaître la dignité de l'autre que chez celui qui est prêt à la réciprocité. Sinon, c'est l'échec. Est-ce que c'est bien clair, Ken? Je me trouvais le mois dernier, oui, c'est encore le mois dernier, en Espagne, à Cordoue, il y a eu un symposium des universités des pays de langue espagnole sur précisément le nouvel humanisme de l'avenir. Et ça a été un des sujets principaux des analyses. Et j'ai mis plusieurs heures à faire comprendre à mes collègues universitaires de langue espagnole cette notion de la réciprocité. Quand ils ont découvert cela, alors ils ont commencé à comprendre la différence entre le judaïsme et toutes les autres, idéaux théoriques qui mènent à l'échec. S'il n'y a pas réciprocité, ce problème n'a aucune solution. Est-ce que c'est clair? Il y a actuellement dans la philosophie contemporaine une espèce de l'idole de l'autre en tant qu'autre. C'est devenu une idole moderne. Okay? Mais tout le monde sait très bien que s'il n'y a pas réciprocité, c'est le suicide. Je pense que c'est clair, je veux dire. Je ne fais en aucun cas allusion à la philosophie de M. Levinas. Mais en fait, ça va dans ce sens-là. Okay? S'il n'y a pas réciprocité, c'est l'échec.
Cette réciprocité doit être aussi tendre vers quelque chose, vers l'unicité.
C'est ce que...
S'il n'y a pas réciprocité, on arrive à la philosophie humaniste.
Non, c'est ce que dit le verset. Ve'arta le'acha kamocha, ani Hashem Elokecha. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un garant de cette réciprocité. Et c'est bien évident. Okay? Non, ça,
non, c'est...
Mais je crois que pratiquement ça revient au même. Si effectivement deux humanistes résolvent le problème de la relation à autrui dans l'ordre de la réciprocité, c'est le judaïsme, au niveau pratique. Et puis finalement, il faut leur laisser le temps de découvrir qu'effectivement il y a un troisième pôle. Nous sommes la religion des deux triangles inversés. Tandis que chez eux, c'est juste. Bien. Et alors. Voilà donc pour refermer ce problème. Okay.
Deux questions. Si j'appelle l'autre mon supérieur, mais j'exige la réciprocité, finalement, il y a une sorte d'hypocrisie.
Non, je vais vous dire. Il faut toute une science. C'est pourquoi il y a un Shulchan Aruch très détaillé. Comment on se conduit avec autrui en toute situation. Autrui étant le père ou la mère, mais ou le frère ou cousin, le concierge, le facteur, le ministre. Chaque fois, il y a un ordre des choses à respecter. C'est les grandes catégories à qui on doit kavod, à qui on doit ira. Mais je pense que la notion de réciprocité, je crois que c'est la base de ce problème. Alors bien sûr, chacun étant à sa place. La manière dont le fils doit se conduire vis-à-vis du père est corollaire de la manière dont le père doit se conduire vis-à-vis du fils. S'il n'y a pas réciprocité, tout est bloqué. Et nous sommes en plein dans notre sujet, les quatre enfants, et pourquoi il y a un rachat? C'est parce que la réciprocité n'a pas joué, et c'est pourquoi Élie le prophète doit venir pour arranger ça. Je crois que le problème de la civilisation nous est dévoilé dans ce verset. Okay. La civilisation fait du surplace au niveau du problème moral, parce que le cœur des pères et le cœur des fils est séparé. Alors, c'est le rôle d'Élie le prophète, dit la Gemara qui parle de ce verset, c'est pas de dire ce qui est permis et ce qui est interdit, mais de rapprocher les pères et les fils. C'est le fondateur des mouvements de Neuf. C'est le prophète. J'avais un exemplaire là-bas. Et alors, je reviens donc à cette situation de parallèle entre ces deux notions, l'Haftara de Shabbat Hagadol et le dialogue des pères et des fils. Nous allons l'étudier tout de suite avec le commentaire du Rav Harlap, parce qu'il nous reste peu de temps. Et c'est entre-temps que je rappellerai la lecture classique. Mais on va commencer tout de suite par ce commentaire de Rav Harlap. Alors, prenez vos textes. À la page 31, la médaille. Keneged Arbaim, divera Torah. La Torah a parlé par rapport à quatre sortes d'enfants. Vous y êtes ? Donc. Alors, vous allez prendre le commentaire avec moi, si vous avez le texte sous les yeux. Ici. Keneged Arbaim, divera Torah. Alors, comme d'habitude, je lis directement en hébreu et en français, et on étudie ensemble. C'est-à-dire, si vous avez des questions à poser, vous les posez pendant la lecture. טוב, למד עליו, כן? כנגד 40 דבר התורה. רב חרלף סיט לפת כאילו אינורממן דה קטגוריזציון פר קטר, דן לגדה דה פסח. נזו נורון דה אקזם. יאלי קטר קסטיון דה מנישתנה. יאלי קטר דנפן כי אינטרוז. יאלי קטר ורב דה דליברנס. יאלי קטר קופ דה ון כי קוממור לדליברנס. מנו סבון כסי קטר סון סנק אין ריאליטי. Top. Alors, je lis tout de suite dans le texte. Chamesh habechinot. Il y a cinq niveaux dans l'âme. Ces cinq niveaux sont nommés de noms différents que très brièvement je traduirai et expliquerai. Nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Nefesh, c'est les forces de l'âme qui animent la vie corporelle. Ruach, c'est les forces de l'âme qui anime la vie intérieure au niveau à la fois affectif, artistique, tout ce qui est regesh, c'est le monde du ruach. Neshama, c'est les forces de l'âme qui animent la personne humaine au niveau intellectuel, de la connaissance. Chaya, le niveau où l'âme est appelée la vivante. Chaya, c'est les forces de l'âme au niveau des valeurs de la personne humaine. Et Yechida, l'unique, c'est le cinquième niveau de la Neshama, c'est la spécificité géniale du sujet de chacun que personne d'autre ne peut être. Ce qui est nommé du nom propre à chacun, littéralement. Or, je vous dirai tout de suite, c'est un sujet très très vaste, l'immense majorité des hommes ont déjà intégré le Nefesh et le Ruach et une petite étincelle de Neshama. Ce ne sont que des êtres exceptionnels, qu'on appelle les Yechidim, d'ailleurs, qui sont arrivés à intégrer tous les niveaux d'une Neshama. Alors, ils sont à eux tout seuls une Neshama. Alors que pour les hommes que nous sommes, il faut se mettre ensemble pour faire une Neshama. C'est le mystère du Minyan. Okay? Est-ce que c'est clair? Bon, alors, je répète, ça vous retrouvez dans les versets. Tout homme possède le Nefesh et le Ruach et une petite étincelle de Neshama. J'éclairerai ça un peu rapidement. Seuls les hommes qui sont capables de la pensée vraie, et la pensée vraie, c'est la pensée sans image, alors se trouve au niveau de la Neshama, vraiment. Or, l'immense majorité des hommes ne pense qu'à travers des images. Et c'est un commandement très important de la Torah. Tu ne te feras pas d'image. C'est-à-dire, au niveau de la pensée, toute pensée qui est encore obligée de s'appuyer sur des images pour penser, d'abord, c'est pas de la pensée, et puis si c'était de la pensée, ce serait de la pensée idolâtre. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Alors réfléchissons bien à cela pour pouvoir comprendre que ce que disent les Hachamim. Nefesh, nous avons tous. Ruach, nous avons tous, chacun le sien. Neshama, nous avons une petite étincelle de Neshama. Elle est là pour nous faire savoir que ça existe. Mais seuls les grands, les Gdolim, les Yechidim, en sont arrivés à intégrer la Neshama, la Chaya et la Yechida. Et alors la Kabbalah enseigne que toute cette quantité d'âme qui n'est pas encore intégrée, elle est autour de la personne et non pas encore intégrée. C'est un peu ce que les anciens représentaient avec la aura, A-U-R-A, ken. En hébreu c'est aura, l'auréole, que les modernes n'arrivent plus à percevoir. Il y a certains êtres privilégiés qui perçoivent l'auréole qui est autour de la silhouette de chacun. Et je ne voudrais pas vous donner des cauchemars. En regardant cette auréole, on sait s'il y a des maladies, s'il y a des mauvaises pensées, à quoi il arrive la nuit. Bon, je referme la parenthèse. Et Voilà donc ce que nous dit Rav Harlap. Cette catégorisation des quatre enfants est parallèle à cette catégorisation des cinq niveaux d'un Neshama. Et vous voyez, quatre qui sont cinq. Alors on lit le texte. Ça fait rien, même si on fait un peu de texte, mais j'aimerais bien que ce soit une étude mammage. Quelle heure est-il? 9h. Bon, on se prend encore une demi-heure, si vous voulez. Ok? Bien fait. Arwa mehen zugot hema. Quatre d'entre elles marchent deux par deux. Zugot, c'est des couples. Okay? Je vous dis tout de suite, nefesh est parallèle de Neshama, ruach est parallèle de Haya. Vahamishit en lazu. La cinquième n'a pas de couple. Le fichach est yachida. C'est pourquoi elle est unique. Essayez de percevoir en même temps, en hébreu, la précision du style du Rav Harlap. En plus, c'est très beau. Et chaque mot est un chidouche. Mais on n'aura pas le temps de l'analyser. Ve'avodatam shel Israël. Or, le service d'Israël, il est harim gam et kol bechinot azugot. De élever, de réussir l'élévation, pas seulement de la yachida, unique, génialement unique en chacun, mais de ses forces qui, par rapport à la Yechida, sont des forces inférieures de la Neshama. Et l'objectif de la vie spirituelle, c'est d'élever, de transfigurer le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Chaya, et que tout cela soit sous le profil de la spécificité géniale, unique de l'âme de chacun, qui nous est donnée au début de notre histoire, comme un projet à réussir, et que l'on arrive à réussir que très rarement au sein d'une même vie, mais que finalement on est condamné à réussir. Et on revient avancer l'ouvrage là où on l'a laissé, chaque fois qu'on l'a laissé. Vous avez compris à quoi je ne fais pas allusion. Eh bien, Velachen, et c'est pourquoi, Baoukamadvarim de Mispar Arba, bien des choses dans la Haggadah, dans le rite de Pessah, sont sous le signe du nombre 4, Arba Abanim, les 4 enfants, Arba Kushot, les 4 questions, Arba Leshonot Shel Geoula, les 4 verbes de la délivrance, Arba Akosot, les 4 verres de. Les 4 coupes de vin, Arba Parashiot, et les 4 Parashiot que l'on lit entre depuis la veille de Rosh Chodesh, qui est du mois de Hadar, jusqu'à. Vous connaissez ces 4 Parashiot, je ne veux pas y revenir. Vezori, et tout cela, c'est une préparation au dévoilement de la spécificité ultime de l'identité d'Israël. Alors on avance. Arbar Banim, les 4 enfants, et Lou, ces 4 enfants-là, Mechouvanim, l'Arbar Bechinot, sont définis par rapport aux 4 points de vue chez Anou Mit'alim, dont nous assurons l'élévation, Belel Shimurim Zé, dans cette nuit spéciale qui est la nuit de Pessah, qui est appelée Lel Shimurim. C'est une nuit où il y a eu une protection spéciale sur Israël à la sortie d'Égypte. Chacham Aomer. Le Chacham, quelle est sa catégorie, disons? Hu Einyana Aliyah Shel Kol Israël Yot Kulam Chachamim. C'est le sujet de la ascension de tout Israël, de telle sorte d'arriver à être tous hachamim, c'est-à-dire la da'at, de connaître, et de kolah et doute, toutes les lois de témoignage, vers hukim, les statuts, vers mishpatim, et les ordonnances, asher siva Hashem elokenu otanu, que Hashem, notre Dieu, nous a ordonné. Ça veut dire, il y a une bechina hacham, qui est un idéal à atteindre pour tout Israël. Et il s'agit de la connaissance. Rachar Mahouomer, la deuxième catégorisation, celle du Rachar, Oyana Afrada Mouchletet, c'est le sujet de la séparation absolue, Mikol Minea Rachar, de toutes sortes d'attitudes de Rachar. C'est-à-dire, l'objet de cette deuxième Mishnah qui concerne le Rachar, c'est une exhortation à se séparer de toutes sortes d'attitudes de non-conformité avec l'authenticité. Shehem Sigei Umot, qui sont les scories de l'identité humaine que l'on trouve chez les nations. Alors là, j'explique. On va dire, chaque nation, c'est une manière d'être homme. Et précisément, ce qui caractérise la spécificité de chaque manière d'être homme, les nations, est ambivalent. D'une part, il y a le génie propre et irremplaçable de la manière d'être homme de chaque nation, et d'autre part, il y a le défaut qui fait que l'on n'est pas l'homme universel. La différence qui fait que telle nation est différente des autres est en même temps son génie et le piège de l'échec de l'identité humaine en elle. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Oui. Et cela définit l'ensemble des nations, sigue aumot. Chaque nation est une manière géniale d'être achat. Toujours dire ça comme ça. Okay. C'est-à-dire non conforme à l'identité humaine universelle et absolue. Donc, comme je disais, je ne sais plus quand, une fois que nous parlions comme ça avec des officiels non-juifs qui ont des responsabilités diplomatiques en Israël, alors je disais, toutes les manières d'être non-juif sont honorables. Toutes les manières d'être non-juif sont honorables. Mais nous avons nos préférences. Nous préférons la manière France. Mais il y a des juifs qui préfèrent la manière Irlande. Mais à la limite, il faut découvrir cela, que toutes les manières d'être goy sont honorables. Mais qu'est-ce que ça veut dire être goy ? Ça veut dire être non-juif. Être en dehors de ce projet de l'histoire d'Israël, d'arriver à retrouver l'authenticité humaine à l'échelle universelle. Alors que chaque goy, c'est une manière bien précise d'être homme. Et elle ne sera jamais que celle-là. Avec l'histoire de son développement propre. Mais un Français ne sera jamais allemand. Un Allemand ne sera jamais français. Alors qu'un Juif peut être ou allemand, ou français, ou ce que vous voudrez. Et, je veux dire, l'exil, paradoxalement, dévoile l'identité universelle de l'être hébreu. C'est un cas particulier. Okay. Et un peuple qui est capable d'être n'importe quel goy à tour de rôle. Okay. N'importe quelle nation à tour de rôle. Top. Alors je referme la parenthèse. Tam Mahou Omer, le simple, que dit-il ? Vous, ça c'est la troisième question, Inyan a allié les Madrigat Yaakov Avinu. C'est le sujet de l'élévation jusqu'au niveau où était Jacob notre père, Ish Tam Yoshev Ohalim. Le verset qui en parle définit Jacob comme un homme paisible habitant les tentes. Et les tentes, c'est les maisons d'études. Faites bien attention à cela. Il faut le lire en hébreu, comme c'est dans le verset. On a l'habitude de lire Tam sans en oubliant qu'il y avait Ish Tam. Tam, ça veut dire un simple. Okay? C'est la manière classique de dire Tam, c'est l'idiot du village. Donc, Stam, Tam. Mais le verset dit Ish Tam. Je vais le réexpliquer très rapidement. La manière dont le verset définit Esaü, c'est Ish Tsaïd Yodéar Tsaïd, homme de chasse. Et Jacob, c'est homme paisible. Le commentaire que j'ai en tête est très clair. Il aurait pu être l'homme de la vertu guerrière. Il a préféré être homme de la vertu paisible. Est-ce que c'est clair ? Il est Ish Tam. Il n'est pas simplement Tam. Je pense que je suis arrivé à faire comprendre ce que je voulais dire. Là, il y a ici d'ailleurs un problème extrêmement important. C'est l'ambiguïté de toute vertu. Si la vertu n'est authentique que chez celui qui est capable du contraire, s'il n'est pas capable du contraire, alors est-ce que sa vertu, c'est vraiment de la vertu ou de l'impuissance ? Je vous donnais encore quelques exemples linguistiques. Vous avez deux mots qui se ressemblent beaucoup en hébreu. « Ani », pauvre, « Anav », humble. Le Talmud dit « Seul un riche peut être humble ». Parce que s'il est pauvre, peut-être qu'il ne sait pas qu'il est humble, c'est qu'il est pauvre. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? C'est-à-dire, seul celui qui a vraiment un Yetzerara, alors on peut le féliciter de son Yetzerato. S'il n'a pas de Yetzerara, alors son Yetzerato, ce n'est pas un Yetzerato, c'est tout simplement de l'impuissance. À la limite, ok ? Retenez, si vous voulez, ces termes de Ani et Arnav. Asseyez-vous, il y a encore la place. Restez pas debout, vous fatiguez. Asseyez-vous. Et pourquoi j'ai parlé de ça, oui. Ishtam, Yosef Oalim, alors on continue. Shehu, Haya, Bemadrigat, Shelifne, Achet. Alors là, il se dévoile quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov était Tam? On traduit paisible, le mot ressemble beaucoup à tamim, qui signifie intègre. Alors Laval explique, Jacob a reçu ce privilège d'être nommé Tam parce qu'il a connu la vie humaine d'avant la faute. Donc c'est un niveau très haut. Et là, je crois qu'il y a place pour une analyse de ce qu'on appelle simple. Il y a chez les grands une profondeur de simplicité qui n'est pas la simplicité de l'idiot du village, mais qui est la profondeur de l'envergure humaine. Alors, elle se dévoile au niveau de la simplicité. Est-ce que je suis arrivé à faire allusion à ce que je vous ai dit ? Je me souviens d'un enseignement de Martin Buber. Vous avez entendu parler de Martin Buber. C'était juste après la guerre, nous venions de fonder l'école d'Orsay, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent, et Martin Buber avait été invité un vendredi soir. Et alors, il nous impressionnait beaucoup. C'était très impressionnant, un peu théâtral, hein, mais impressionnant. Et alors, quand il avait fini de parler, son exposé, il y avait un grand silence dans la salle à manger de l'école. Et alors, il avait dit une très jolie chose. Il dit, vous savez, il y a deux sortes de silences. Il y a des silences pleins et des silences vides. C'est très beau, d'ailleurs. Alors, c'est un peu le problème de la simplicité. Il y a des simplicités vides. Il y a des simplicités pleines. Vous avez compris un peu de quoi il s'agit. Donc, alors, ça, c'est Tam, la profondeur de l'homme non secondarisé. Alors, on l'appellera simple, mais encore une fois, dans le sens de cette simplicité pleine. Il n'y a rien de plus sophistiqué qu'un homme secondarisé. Je vais essayer d'expliquer un peu ce que j'entends par là. Les hommes qui n'arrivent pas à coïncider avec eux-mêmes. Alors, ils assistent à leur propre vie. Et on ne sait jamais avec qui on a affaire. Avec l'acteur ou le spectateur, il y a toujours deux personnages qui s'entremêlent. Est-ce que c'est clair ? Non. Alors que le Tam, il est primaire. Pas primitif, mais primaire. Non secondarisé. Je crois que cette secondarisation de la personne, c'est le malheur de la conscience. Il y a une analyse de Jean Val à propos de Leibniz, il me semble, et où il a formulé cette expression, le malheur de la conscience. Mais le malheur de la conscience, c'est cette espèce de poison d'une intelligence secondarisée. Et ça ne trompe personne, d'ailleurs, quand on voit quelqu'un qui, finalement, joue le théâtre de sa propre existence. Est-ce que c'est clair ce que je dis de... Vous voyez pourquoi le théâtre est très suspect dans la tradition juive. Alors ça c'est Yaakov Tam. Et Umipineze Yaakov Avinu Lomet. Et c'est pourquoi on a pu dire que Jacob notre père n'est pas mort. Les Met, c'est les mêmes lettres que Tam. Okay? À l'inverse. Okay? Mais effectivement, le verset qui décrit la fin de la vie de Jacob n'emploie pas le mot de Vayamot, il mourut. Il expira, Vayasefer Amav, il rejoint son peuple dans l'au-delà, les âmes de son peuple, mais il n'y a pas Vayamot. Alors la caméra enseigne, Yaakov Avinu Lomet, c'est un sujet pour lui-même, Jacob notre père, on n'a pas dit de lui qu'il est mort, et il est toujours vivant. Et la caméra explique, Ma bana bahaim, afu bahaim. De même que ses enfants sont en vie, son histoire continue à travers ses enfants. À travers cela, on comprend qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov Avinu l'omet. Et alors, Rav Harlap a relié cela avec un enseignement du Talmud extrêmement important, c'est que la mort est reliée, enfin est conçue comme conséquence de la faute du premier homme. Et par conséquent, un homme qui a vécu de la vie humaine d'avant la faute, celui-là est dit l'omet. Il n'est pas dans le cas de la mort. Donc ça veut dire que c'est une madriga, c'est un niveau tout à fait autre qu'on pouvait croire. Et vous allez encore avoir des surprises avec le quatrième. Comment ? Non. Il avait sa manière de vivre était celle, disons, pour atténuer la difficulté. Sa vie intérieure était du type de la vie intérieure du premier homme d'avant la faute. C'est ça que ça veut dire. Et vous avez des êtres exceptionnels qui, en tout cas pendant une première période de leur vie, n'ont jamais, comme dit la Gemara, goûté le goût de la faute. Après, on rentre dans la vie adulte, toutes les compromissions sont possibles et sont inévitables. Mais cette espèce d'innocence, dans le sens étymologique du terme, de la vie intérieure, ça existe. C'est rare, mais ça existe. C'est des hommes ou des femmes, et si vous en avez connu, vous les connaissez. Je reviens au texte. Et alors, Yaakov Avinu l'omet. Velazé, gam advarim shemerov gadol romemutam enanu bituyim lishov aleihem. Et par conséquent, à ce niveau-là, même les choses qui, à cause de leur haut niveau d'élévation, nous n'avons pas de mots pour les dire et pour les interroger, kim besuva shel mazot. Et uniquement, quoi ? Qu'est-ce que c'est ça, mazot ? C'est-à-dire, ce sont des valeurs telles qu'on n'a pas de mots pour les interpeller. On ne peut que dire comme le tam, mazot. Que se passe-t-il ? C'est-à-dire, il y a un niveau de la connaissance de soi qu'Israël doit atteindre et qui a été le propre de Jacob en tant que le verset dit de lui, Jacob ishtam. Ça veut dire, à ce niveau de très grande valeur, alors la pensée humaine n'est même pas outillée pour pouvoir formuler ce qu'elle veut demander. Elle est obligée de le demander sam, mazot. Je continue. Gamhev, ces paroles indicibles, là, mit galim lanu, se révèlent à nous, balayla azé, cette nuit-là, achenuchal le batte, jusqu'à ce que nous puissions les exprimer, ou le saper gamalem, et en raconter, vers martaela, et tu lui diras, à celui de tes fils qui t'a posé la question à ce niveau du tam, mazot, bechosek yad, otianu hachem et mitzraim. C'est-à-dire, ce qui se dévoile là, c'est un peu ça à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure, en disant qu'il a fallu une intervention de la force de Dieu pour que cet événement du salut soit possible. J'essaierai d'expliquer un peu cela quand même. Ça pourrait nous étonner, Dieu est tout-puissant, Kol Yachol. Pourquoi la Torah met en évidence le caractère prodige, merveilleux de ce que Dieu fait lorsqu'il intervient ? Il peut tout. Est-ce que c'est vraiment une louange de dire du Kol Yachol, de celui qui peut tout, du tout-puissant qu'il est puissant ? C'est, à la limite, c'est le contraire d'une louange. Ça veut dire, est-ce que ça impliquerait qu'il pourrait ne pas ? Quand je félicite quelqu'un de ce qu'il fait, et c'est un peu l'analyse de tout à l'heure, alors ça impliquerait qu'il aurait pu ne pas ? Est-ce que c'est clair ? Alors c'est un problème très important, en particulier, c'est ce qu'on a étudié chez Maïmonide, le problème des attributs négatifs. Maïmonide pose la question, le schématise beaucoup de la manière pareille, est-ce que c'est pas une insolence de dire de Dieu qu'il est grand ? Parce que dire quelqu'un qu'il est grand, ça veut dire qu'il aurait pu être petit, alors je le félicite de ne pas être petit. Mais est-ce que cette imputation, cette supposition n'est pas blasphématoire ? Et c'est pourquoi Maïmonide a tendance à enseigner, je schématise, quand nous disons de Dieu qu'il est grand, ça veut dire précisément qu'il n'est pas petit. Mais ce n'est pas une indication positive, parce que toute grandeur a une limite. Bon, je me suis embarqué dans un problème un peu difficile, Ken. Je referme la parenthèse. En réalité, je crois qu'il y a quelque chose encore de très important dans cet enseignement de Maïmonide, étant donné que les attributs de l'unité divine sont contradictoires, si on les affirme comme positifs, on reste dans la contradiction. Alors on les affirme comme négatifs pour envoyer à l'infini. Je m'explique. Si je prends deux attributs fondamentaux, la charité et la justice, nous affirmons qu'en Dieu, cela est un. Ça veut dire que la charité, c'est la justice, c'est la charité. Mais dans la réalité, c'est contradictoire. La justice, c'est d'Afka pas la charité, c'est pas la justice. Est-ce que c'est clair ? Donc si j'affirme la charité à l'indice positif, c'est contradictoire avec la justice à l'indice positif. Tandis que si j'affirme l'indice négatif, alors ça se résorbe dans l'unité de l'infini. Bon, c'est assez obscur pour être clair ? Alors on passe au sujet suivant. Donc, Et voilà, je reprends la phrase. Bermartaela, Bechosekiad, Otsianu, Hachem et Israël. En quoi c'est une louange ? De dire que Dieu est intervenu avec force. Il a fallu qu'il intervienne avec force pour rendre le salut possible. Et en quoi c'est une louange de dire que Dieu intervient avec force ? Est-ce que Dieu a besoin de faire des miracles pour être Dieu ? Vous avez entendu ce que je viens de dire ? Aïe, palais, mais Hachem d'Ava. Ok. Le pshat du verset, ça consiste à dire, est-ce qu'un miracle est trop grand pour que Dieu ne le fasse pas. Mais peut-être qu'il y a dans ce verset quelque chose de beaucoup plus profond. Est-ce que Dieu a besoin de faire des miracles pour intervenir? Un Dieu qui a besoin de faire des miracles pour intervenir, c'est suspect. J'espère que je vous inquiétez. Et c'est vrai?
Vous entendez sur le thème des miracles?
Oui, oui. Par exemple, je reprends le problème, la question est très importante. Dieu a institué un fonctionnement du monde à l'origine de la création. Le monde fonctionne d'après les lois instituées par sa volonté. Et il faut qu'il en soit ainsi pour que la liberté de l'homme soit possible. Si les lois étaient capricieuses, si les lois qui gèrent le phénomène étaient capricieuses, la liberté s'évanouit. Par conséquent, il y a une garantie que Dieu a donnée que le monde fonctionne comme il fonctionne. Okay? Ça ne peut être qu'exceptionnel lorsqu'il suspend ce fonctionnement et ça s'appelle un miracle. Je vous donnerai une analogie en familiarité juive. Les lois du Shabbat s'inversent lorsqu'il y a pikouach nefesh. C'est-à-dire lorsque l'homme est en danger, les lois du Shabbat s'inversent. Or, dès l'origine du commencement de l'histoire, il y a une loi de Shabbat entre Dieu et le monde. Shabbat veinafash. Okay? Dieu a façonné le monde et puis l'a installé dans l'état du Shabbat du commencement. C'est clair. S'il juge que le monde est en danger, il intervient. Donc il viole ce Shabbat. Ça, c'est le miracle. Okay? Bon, c'est un problème extrêmement difficile. Quels sont les critères? Comment Dieu juge qu'il y a danger alors il intervient? Et ça nous échappe. Okay? On pourrait se demander pourquoi il y a dans telles circonstances, il aurait dû intervenir, il n'intervient pas. Pourquoi dans d'autres, il intervient et on ne voit pas pourquoi? Okay? Donc, ce n'est pas entre nos mains, ces critères. Mais il est bien évident que la Torah nous enseigne, et le Talmud le dit en clair, à ne pas attendre de miracles. Ça oblige Dieu à violer son Shabbat. C'est-à-dire, le Talmud n'aime pas les miracles. Si on a besoin d'un miracle, bon, vive le miracle. Baruch haba le miracle. Mais, vous voyez, c'est une sensibilité religieuse inversée. Les idolâtres n'espèrent que ça. Okay? Est-ce que c'est clair? Alors que la sensibilité religieuse de la Torah est devant ce problème qu'elle prend à bras le corps. Il ne faut pas de miracle. Mais s'il en faut, il en faut. Et s'il en faut, c'est vraiment des miracles. Est-ce que c'est clair? Pourquoi nous avons parlé du miracle? Attendez, je ne voudrais pas perdre le fil. Ah oui, oui. Oui. Alors, je vous donnerai un type d'explication. C'est une Mishnah qu'on utilise très souvent. Nous définissons Dieu aussi dans la qualité de la Gvura, la vaillance. C'est dans la Tfila, la deuxième bracha de la Tfila, Ata Gibor Leolam Hashem. Tu es le Gibor. En quoi c'est une louange? Et alors nous avons dans la Mishnah des Pirkei Avot un enseignement. Qu'est-ce que c'est qu'un véritable Gibor, vaillant? C'est pas quelqu'un qui est plus fort que quelqu'un d'autre. Parce que ça signifie tout simplement que l'autre est plus faible. C'est clair. Or, être plus fort que lui, il ne peut pas. Donc un véritable Gibor, c'est quelqu'un qui est plus fort que soi-même. Ça, c'est la vraie Gvura. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors,
c'est ça le Hozekiah?
Je n'entends pas.
Mais Hozekiah, c'est l'explication de
Ata Gibor? Ben Hozekiah, oui, on y va. Ce n'est pas pour rien que j'ai parlé de ça, on y arrive. Tu penses trop vite pour nous. Mais on va rattraper le train. Ça veut dire que pour pouvoir intervenir pour sauver Israël, il faut que Dieu, protecteur d'Israël, s'oppose à lui-même, Dieu, créateur des Égyptiens. Est-ce que c'est clair? Ça nous semble en plein monothéisme, et la difficulté du monothéisme, c'est cela. C'est que Dieu doit lutter contre sa propre volonté pour pouvoir intervenir pour Israël. En quoi? Sa volonté pour sauver Israël doit s'opposer à sa volonté en tant qu'il est le Dieu des Égyptiens aussi. Et il faut découvrir cela. Le monothéisme, ce n'est pas une monolâtrie. Le monothéisme de la Torah, ce n'est pas que je reconnais un Dieu unique qui ne s'occupe que de moi. Je reconnais le Dieu un, qui est le Dieu de l'univers tout entier. C'est celui qui a créé les Égyptiens, et il en est la providence, en tant que Dieu un, qui doit intervenir contre lui-même pour pouvoir sauver les Hébreux. Vous avez compris? Alors là, on comprend. C'est-à-dire, c'est inouï, cette force en Dieu lui-même qui se dévoile. Nous n'avons pas de comparaison dans notre propre expérience humaine, sinon très, très, très loin, de très loin. Arriver à être plus fort que soi-même. Et je cite la Mishnah. « Ezehu gibor akovesh et yitzro. » De qui peut-on dire qu'il est gibor ? De celui qui est capable de réprimer ses propres instincts. Mais mes instincts, c'est moi. Donc il faut que je sois plus fort que moi pour pouvoir être fort. Qui est capable de ça ?
C'est ce qu'on appelle se dominer.
Oui, oui, oui. C'est un des cas. Okay. C'est un des cas. Alors ça, c'est la véritable Gevurah. Donc, et nous avons dans le Talmud, c'est au début de la Maseret Sota, à la page 2 d'ailleurs, l'expression suivante. Pour dire qu'une chose est très difficile, on dit comme le passage de la mer Rouge. En particulier, on parle de Zivouk, caché Zivougam chez les loups, qui crée un souffle. Il y a des mariages, des accordailles, qui sont aussi difficiles à faire que le passage de la mer Rouge. Je vous citerai, je ne voudrais pas analyser cela, il s'agit de ce qu'on appelle le Zivouk Sheni. Le Zivouk Rishon, c'est le Zivouk idéal, un tel pour une telle depuis le temps de la création du monde. Mais il arrive qu'on ne prenne pas le même ascenseur. Il y en a un qui est né au XIVe siècle et l'autre qui n'est pas né encore. Comment ils vont se rencontrer ? Et alors, il y a un Zivouk Sheni, une approximation. D'ailleurs, les psychologues ont étudié cela. Je vous cite le nom d'un psychologue hongrois, Dzondi. Ça vous dit quelque chose ? Dzondi, vous n'avez jamais entendu parler ? Top. Alors, Dzondi a établi des tests comme ça. Alors, un de ces tests, c'est que les hommes ont l'habitude d'aimer le même type de femme. Et alors, c'est des exemplaires possibles de la femme idéale qui aurait été le Zivouk Rishon. Roméo et Juliette, non, Tristan et Iseult. Tristan et Iseult, c'est rare. Okay. Alors, il y a des Tristan bis, des Iseult tiers, et puis ça se rencontre quand même, ça marche. Okay. Et en général, nos mariages sont des Zivouk Sheni. Le Zivouk Rishon, il est très rare, surtout dans les dernières générations depuis la destruction du temple. Top. Et alors, la Gemara, parlant du Zivouk Sheni, dit caché Zivougam chez les loups qui créent Yamsouf. Et leur mariage, leur Zivouk, leur accouplage, est aussi dur pour Dieu que le passage de la mer Rouge. Et créent Yamsouf, ça veut dire le déchirement de la mer Rouge. Alors, un des grands commentateurs de ces choses-là, c'est le Rolélot Ephraim, qui a posé la question suivante. La comparaison n'est pas claire. Un Zivouk, c'est au contraire unir. Mais le passage à la mer Rouge, c'était diviser les deux. Il explique comme ça. Il dit voilà. Pour réussir un Zivouk Sheni, il faut le faire au détriment du partenaire originel de chacun. C'est clair ? Ça veut dire que, finalement, lorsque le Zivouk Sheni se fait, eh bien, on va assassiner le mari éventuel de elle ou la femme éventuelle de lui. Est-ce que c'est clair ? Bon, alors voilà, il explique comme ça. Pour pouvoir sauver Israël, Dieu a dû sacrifier les Égyptiens. T'as un Zivouk Sheni ? T'es clair ? Et c'est aussi difficile pour lui. Les Égyptiens sont ses créatures. Ça nous reste un mystère. Pourquoi il a créé les araignées ? Pourquoi il a créé les crabes et les nazis et les Égyptiens ? Donc, c'est un mystère. Mais c'est lui qui les a créés. Et par conséquent, le Hoseka d'ici prend toute sa force. Okay. Ça veut dire que c'est encore beaucoup plus fort qu'on pouvait imaginer. Et voilà. On continue un peu encore, au moins pour finir le paragraphe. On est revenu. Non, je voudrais finir le paragraphe. Alors, sur cette verset, nous sommes Bermatayla Berhoseka d'Otsin Hashem Israël. Je me rappelle comment j'ai appris ça au Talmud Torah. Le pshat, c'est Bermarta Elab, et tu lui diras, Bechosekia, d'Otienu Hashem Israël. C'est avec une main forte que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Et je me rappelle encore de mon Melamed, mon rabbin, qui était un mioche, il nous a fait dire comme ça. Il nous prenait par l'épaule, et il nous disait, Bermarta Elab, Bechosekia, d'Otienu Hashem Israël. C'est-à-dire, le tam, il faut le réveiller. Et tu lui diras, main forte, comprends ce que je te dis. Nous sommes sortis d'Égypte. Est-ce que c'est clair ? Donc, soit que les deux vont ensemble. Hoseka, la force de la main, Husod, Abakoua, c'est le secret qui éclate, qui traverse chez la Nisgavot Alalou, Abokhim ou Meirim, de ces grandes choses qui traversent tous les niveaux supérieurs et nous éclairent. Et on arrive au quatrième. Veshe Eno Yader Lishol, et celui qui ne s'est pas interrogé, ou Enyan a Alia le Madega Nisgava Meot. C'est le sujet d'une élévation au niveau très haut. Chez Afadobarim, chez Nam Begeder, chez Laklal, même les choses à propos de lesquelles il n'y a pas de questions, on ne peut pas poser de questions, Midgalim se dévoile, Balaylazé, dans cette nuit-là, Biprinat At Petachlo, dans ce que a dit la Mishnah, toi, ouvre pour lui. C'est-à-dire, c'est toi qui prends l'initiative de lui poser la question. Ou que mot, chez Besharat Giulat Misraim, et de même qu'au moment de la délivrance d'Égypte, Patach Lifne, Makadosh Baruch Hu, Dieu a ouvert devant eux, et Kol Shivat Rekiim, les sept cieux, Vegilalaem, il leur a dévoilé à Inyanim Noraim des choses très grandes, Shelonit Galou, les Shum Navi Vechose, qui n'ont été dévoilées à aucun prophète. La Gemara insiste beaucoup là-dessus. La génération de la sortie d'Égypte a eu le privilège d'une révélation supérieure à celle d'Ézéchiel. Et je veux dire comment la Gemara le dit. Ra'ata Shifra Alayam, Mashelora Ezkiel Ben Bouzi. C'est-à-dire une servante, une Shifra, hein, servante, au moment du passage de la mer rouge, a vu ce que Ézéchiel lui-même n'a pas vu dans sa capacité de prophétie. Et je ne peux pas résister à le réidentifier pour nous, de nouveau. N'importe quel petit juif a eu le privilège de vivre ce qu'ont vécu cette génération, de la Shoah et en être escapé, de la Trouma et rejoindre, et y participer. N'importe quel petit juif a vécu là des événements que les plus grands d'Israël pendant 2000 ans n'avaient aucune idée de quoi il pouvait s'agir. Je ne sais pas si c'est clair. Mais encore une fois, les contemporains sont toujours défavorisés. Précisément parce qu'ils sont contemporains, ils ne savent pas ce qui leur arrive. Je suis persuadé que dans les siècles futurs, je ne sais pas s'il y aura des siècles futurs sous quelle forme ils seront, les historiens de l'avenir parleront de nous, de notre temps, comme le temps des héros. Et nous ne nous rendons pas compte que c'est nous ces héros-là. Hein, enfin, ces héros. Top. Alors, je termine cela. Vekilala emiganim noraim, shenun ikalou leshun navi vechose. Même des évidences, des valeurs à propos desquelles il n'y a pas de question. Et on n'arrive pas à formuler de question. De même, à chaque année, ces lumières-là se dévoilent à tout Israël. Bon.